6h20 et le premier invité de la matinale avec vous, Marion, est docteur en anthropologie, il est spécialiste de la scène métal, co-commissaire de l'expo métal Diabolus in Musica qui vient de démarrer à la Philharmonie de Paris.
Ouais, on s'est dit qu'on allait réveiller nos auditeurs en douceur ce matin sur Inter. Un extrait du groupe Black Sabbath et de son morceau Paranoïde en 1970. Black Sabbath qu'on retrouve dans l'exposition que vous avez conçue. Bonjour Corentin Charbonnier.
Bonjour.
Spécialiste donc du métal, vous avez même dédié votre thèse au Hellfest, ce festival annuel de métal. Une expo Diabolus in Musica dédiée à cette musique un peu sulfureuse, diabolique dans un lieu comme la Philharmonie, ça peut surprendre, non ?
Je pense que ça va un peu surprendre et en même temps c'est une énorme chance que la Philharmonie nous ait proposé de faire cette exposition avec Mylène Garcin, co-commissaire de l'exposition, parce que c'est la première fois aujourd'hui au monde où on a une collection aussi vaste d'instruments, d'objets, d'éléments mythiques qu'on réunit dans la Philharmonie de Paris et en France.
Et ça démarre très fort.
Ça démarre très très bien.
Il y a des espaces, alors pour décrire un peu l'exposition, il y a des espaces type scène de concert, festival, bar, ces endroits où la musique métal vit. Et pourquoi cette référence au diable et à Satan ?
Il y a toujours eu un jeu avec les normes sociales. Dans le métal, on a eu une forme de position dès le départ avec Black Sabbath aux institutions qui étaient représentées à la fois par l'État, par la politique et par la religion. Et il y a un petit côté contestataire qui est assez inhérent à la musique métal.
L'exposition, donc on y voit la guitare par exemple de Tony Iommi de Black Sabbath qu'on entend encore un petit peu derrière nous, la guillotine de scène d'Alice Cooper, la basse hache de Kiss, mais il y a des surprises aussi, par exemple une sculpture de Rodin, expliquez-nous.
Alors c'est assez simple, Rodin a été repris dans une pochette de Black Sabbath pour Eternal Idol et ils n'avaient pas eu les droits à l'époque pour avoir la vraie sculpture de Rodin, donc ils avaient peint des personnes en couleur bronze pour faire la pochette de l'album et on s'était dit avec Mylène Garcin, qui est aussi historien de l'art, qu'on allait ramener le vrai Rodin qui avait servi d'inspiration pour la pochette de l'album d'Eternal Idol.
Et quels sont les objets, d'après vous, les plus emblématiques de l'expo ?
On en a beaucoup, je crois qu'on a un peu poussé les murs, et on remercie la Philharmonie pour ça, mais on doit avoir 500 objets. Je pense que la Ouija guitare de Kirk Hammett, de Metallica, est absolument folle.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cette guitare ?
Ça a servi au Black Album, entre autres, donc l'album qui a permis une sorte de démocratisation de Metallica. On a la basse de Cliff Burton.
C'est Nothing Else Matters.
Oui, voilà. Exactement.
Qui a été diffusé par toutes les radios, en fait, pas seulement dans les radios privées et particulièrement destinées à ce public-là, en fait.
Tout à fait.
Et donc, il y a cette guitare-là.
On a la basse de Cliff Burton, donc le premier bassiste de Metallica, et la basse du dernier bassiste de Metallica, qui est Robert Trujillo, dont la particularité de sa basse a été d'être peinte par sa femme, Chloé Trujillo, qui est aussi prêteuse de ses peintures dans l'exposition.
Des femmes, d'ailleurs, il y en a aussi dans le métal.
De plus en plus. Nous, on le voit, là, on est sur les enquêtes statistiques du public du Hellfest, on voit qu'on est à un pourcentage de femmes qui est plus de 30%. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on se rappelle, il y a encore une vingtaine d'années, ou même une quinzaine d'années, les premières études nous montraient qu'il y avait moins de 20% de femmes. Donc ça évolue très largement sur la dernière décennie.
Le métal est né dans les années 70. Au départ, c'était une musique plutôt populaire, voire prolétaire.
Tout à fait.
Et ça a évolué ?
Ça évolue sûrement encore, et on le voit sur le Hellfest, on a une population de cadres aussi qui est présente, on a un fort niveau de diplôme aussi dans cette culture métal, mais il y a surtout un fort niveau de dévotion, quelle que soit la CSP, c'est-à-dire que là aujourd'hui on voit que les métalheads sont tous des collectionneurs, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a fait l'exposition, c'est à la fois dans les institutions comme l'Ordre Café qui sont prêteurs, mais aussi en allant chercher auprès des groupes qui sont eux-mêmes des collectionneurs de plein d'objets, qui gardent aussi des objets qui sont à la fois liés à leur groupe mais aux autres groupes, par exemple Gojira nous a ouvert ses portes et on a récupéré la première guitare et la première batterie des frères Duplantier, donc c'est une énorme chance qu'ils soient aussi collectionneurs pour être prêteurs.
Et il y a plusieurs familles dans le métal, ça aussi on le voit dans l'expo, il y a le métal symphonique, le death, le hardcore, le black, plus ou moins underground, c'est comme ça que vous l'organisez, en fait il y a différentes familles dans un même genre.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on s'est amusé dans des travaux à refaire les imbrications des différents styles, ce qui forme une galaxie métal avec plus de 80 sous-genres, et encore on les a déjà pas tous mis. Dans l'exposition c'était impossible de tous les mettre, donc on s'est dit on va sélectionner à peu près une dizaine de grands styles qui sont assez symptomatiques parce que eux-mêmes donnent naissance à d'innombrables sous-styles. Donc on a gardé effectivement le hard rock et le heavy qui sont un peu la partie originale, puis après on est allé vers le thrash, donc avec des groupes comme Metallica ou Slayer ou même Sepultura, et après on a évolué vers le power, le sympho, le new, tous ces styles qui ont émergé aussi dans les années 90 et cette forme de reconnaissance aussi qu'on a eu dans les années fin 80, début 90.
Et vous qui êtes spécialiste du métal, de quel œil vous voyez ce succès là, ces 240 000 personnes qui se pressent chaque année au Hellfest, la soirée métal aux Francofolies et même les chanteurs pour enfants, Aldebert, Henri Dess, qui se mettent à faire des albums de métal?
On est sur une voie de démocratisation de cette musique-là, ce qui est intéressant, parce que le Hellfest a ouvert les portes en fait il y a quelques années. C'est quand même depuis 2006 le Hellfest à Clisson. On le voit, au départ, c'était une musique qui était simplement peut-être... Le Hellfest devenait peut-être la pierre angulaire de son identité métal. Fallait y aller pour être un vrai métalhead, entre guillemets. Et aujourd'hui, le Hellfest a aussi cette particularité, c'est de permettre aux gens qui ne connaissent pas la culture métal d'y accéder. Et on le voit, le métal reste certainement une musique où tout se passe bien, dans la grande majorité des cas, et en même temps, on le voit, ça devient accessible. Et tant mieux. Dans d'autres pays, le métal est complètement accepté. Je pense aux Finlandais, on a des groupes de métal pour enfants, pourquoi pas chez nous. Aldebert va certainement ouvrir les voies cette année.
Bah, y a eu Henri Dess Metal aussi.
Henri Dess Metal, oui.
Et alors, cette expo, vous dites, ça s'adresse de plus en plus à plus en plus de monde, en fait, le métal. Diabolus in Musica, c'est à mettre entre toutes les oreilles, y compris celle de mes parents ou...
Franchement, oui. Tout le monde a écouté du métal, ne serait-ce que dans les années 80, où on parlait de Metallica, mais on aurait pu parler de Scorpion.
C'est accessible à tout le monde, même les Béotiens.
On l'espère.
Merci Corentin Charbonnier, anthropologue, co-commissaire de cette exposition Diabolus in Musica à la Philharmonie de Paris. C'est jusqu'au 29 septembre prochain.